D'accord. Heureusement qu'on s'est installé ici. Hein.
Ah bah oui.
C'est bien là,
oui. L'espace. Il y a encore des places.
L'espace. Oui, encore des places.
Les pères et les frères ont disparu.
Si,
ah, ils se cachent là-bas.
Il y en a là, puis vous en avez là. En blanc. Bon, mais c'est l'heure, donc nous allons commencer. Je suis heureux d'ouvrir donc ce cycle de conférences cette année au couvent des Dominicains sur le thème des religions aujourd'hui. Hein, les religions, les conflits et la paix. Donc je suis heureux d'ouvrir ce cycle de conférences en accueillant monsieur le professeur Mohamed Harkoun, qui est professeur émérite de la Sorbonne. Et donc il va répondre et nous expliquer surtout les termes de cette question à la fois complexe et un peu énigmatique. Hein, peut-on parler d'humanisme en contexte islamique, classique et contemporain? Alors pour présenter quelqu'un, je trouve que c'est toujours mieux de laisser la personne se présenter elle-même. Et j'ai trouvé dans la préface d'un livre récemment paru chez Vrin, donc sous le titre « Humanisme et Islam » dans la préface, j'ai trouvé une présentation de M. Harkoun par lui-même. Donc je vais simplement vous lire cet extrait. Il dit « Je m'adresse aussi bien au vaste public musulman qu'au public exigeant, peu ou mal informé, positivement ou négativement prévenu d'un Occident hautain, sûr de lui et dominateur. Selon l'accueil réservé aux itinéraires de la pensée critique proposés dans ce premier volume, je me déciderai soit à en offrir d'autres, soit à retourner aux recherches érudites par lesquelles j'ai commencé mon parcours d'enseignant-chercheur. » Alors ce que j'entends dans cette présentation, premièrement, c'est M. Harkoun nous dit qu'il est un érudit, il est historien, et d'ailleurs arrivant tout à l'heure au couvent et apprenant qu'ici c'est le lieu de formation des dominicains de la province de France, il s'est inquiété tout de suite des programmes, et je dois dire que l'examen n'a pas été très concluant, puisqu'il s'est rendu compte qu'il y avait l'absence de ce qui lui tient à cœur, c'est-à-dire un enseignement d'histoire comparée des religions. Voilà, donc je transmettrai l'information aux frères qui s'occupent des programmes de cours ici. Et puis sinon, donc, enseignant-chercheur, érudit, et un souci de pensée contemporaine sur l'avenir de notre civilisation. Donc un souci de philosophie. D'ailleurs, ce texte, Humanisme et Islam, a été publié dans une collection, dans une maison d'édition de philosophie. Et je veux dire que c'est un grand document pour une réflexion aujourd'hui, un grand document de philosophie contemporaine. Alors sans plus tarder, donc, M. Harkoun, je vous laisse la parole et je vous repose la question, hein, à laquelle vous allez répondre. Peut-on parler d'humanisme en contexte islamique, classique et contemporain?
Merci beaucoup, mesdames et messieurs, frères et pères dominicains. Je suis particulièrement heureux d'être non seulement dans ce couvent, mais de prendre la parole dans un lieu de prière, c'est-à-dire un lieu de sérénité, un lieu de communication en profondeur des esprits et des cœurs. Je respecte infiniment ce lieu et je suis très honoré et heureux d'y prendre la parole. C'est la deuxième fois que cela m'arrive. À Amsterdam, j'ai pris la parole dans une église, mais là, c'est une église désaffectée, comme il y en a beaucoup, et qui est transformée en centre culturel. Par conséquent, elle est complètement laïcisée. Ici, des fidèles viennent prier régulièrement. C'est encore une église ouverte aux fidèles, mais ouverte à la parole, la parole de la connaissance. Car la foi, quelle que soit sa richesse, ne peut pas vivre, ne peut pas se développer, s'enrichir, sans la connaissance critique. Et je cite un dominicain qui a été un de mes maîtres, un de mes guides, que j'ai bien connu, le père Chenu, Dominique Chenu, qui a écrit une thèse tout à fait nouvelle et remarquable par son audace intellectuelle en ce temps-là, 1952, sur la théologie au XIIe siècle. Et il avait cette belle définition de la foi qui est restée ma référence. La foi, c'est la croyance à l'épreuve du temps. À l'épreuve du temps. Le temps, qu'est-ce que c'est ? C'est l'histoire des hommes. C'est l'histoire concrète des hommes. C'est l'histoire qui change les hommes. C'est l'histoire qui fait que les hommes changent. Constamment les conditions de vivre la foi. C'est une définition majeure, magnifique. Et vous voyez, je m'en sers comme introduction pour parler de l'humanisme. Autrement dit, les querelles longues au sujet de la possibilité de parler d'un humanisme religieux face à un humanisme philosophique laïque, cette querelle n'est pas terminée. Elle est toujours là. Elle est fondamentale. Car c'est cette querelle-là qui a fait que la pensée chrétienne, le magistère doctrinal catholique, dans tous les pays d'Europe, face à l'émergence de la modernité, eh bien, a résisté à cette modernité. Il ne l'a pas acceptée du premier coup, loin de là. Et jusqu'au XIXe siècle, fin du XIXe, il y avait encore des résistances aux apports incontestables et révolutionnaire sur tous les plans, celui de la connaissance scientifique, mais aussi celui des institutions humaines, de la démocratie, de la construction des démocraties. Eh bien, il y a eu résistance, rejet, et jusqu'à présent, les tensions subsistent. S'il y a eu rejet et résistance de la part du christianisme, qui est une religion européenne, qui a grandi dès le départ, sur les données historiques de la pensée grecque, de la culture romaine, l'Église a grandi avec ce courant majeur de la pensée qui s'est répandue dans tout l'espace méditerranéen, la pensée de la Grèce classique et la pensée de Rome. L'Église en a été l'héritière. Même les évangiles prononcés par Jésus de Nazareth en langue araméenne, qui est une langue sémitique, comme l'hébreu, comme le syriaque, qui est une grande langue aussi sémitique, des pères de l'Église d'Orient, qui ont traduit des textes grecs en syriaque, qui vont ensuite être traduits du syriaque à l'arabe ou de l'arabe au syriaque. Et l'araméen, c'est le dialecte dérivée de la langue syriaque comme langue savante, comme aujourd'hui la langue arabe écrite et les différents dialectes arabes. Eh bien, Jésus de Nazareth a parlé en araméen aux populations de Palestine, et 70 ans après, les paroles de Jésus ont été rapportées en grec. Je dis cela, je rappelle cela, pour vous montrer l'ancienneté de la question humaniste. Je dis la question humaniste parce qu'elle sert, elle reste encore une question difficile, une question disputée, qui ne va pas de soi. Et elle est particulièrement discutée pour savoir s'il peut y avoir un humanisme centré sur l'homme, traduisant le souci de l'homme pour l'homme et la prise en charge de l'homme par l'homme et pour l'homme, en se servant en particulier de cette faculté de connaissance qu'est la raison, et la raison philosophique, et la connaissance philosophique. Ça, c'est une grande ligne. L'autre grande ligne, c'est le monothéisme et les grands corpus du monothéisme. Je dis les grands corpus, c'est-à-dire ces livres que nous consultons tous et que nous lisons tous comme les sources fondatrices de la foi juive, de la foi chrétienne et de la foi musulmane. Ces corpus de la foi monothéiste dans ces diverses branches ont pris l'importance que vous savez, et au Moyen-Âge, les corpus de la lignée philosophique grecque et les corpus de la foi religieuse monothéiste ont connu des développements, des expansions culturelles et intellectuelles tout à fait exceptionnelles, aussi bien dans la pensée juive que dans la pensée chrétienne et la pensée islamique. Voilà une donnée historique tout à fait fondamentale. Pour nous aujourd'hui, vous voyez tout de suite les conséquences de cette donnée d'histoire. Je ne fais pas un discours abstrait, je n'invente pas des choses. L'histoire, c'est ce que les hommes ont vécu, ce que les hommes ont produit, ce pourquoi les hommes se sont battus et sont morts et continuent de mourir. C'est ça l'histoire. L'histoire doit toujours être notre première référence. Les discours idéologiques ont pour fonction d'annuler l'histoire, comme nous l'annulons, même dans cette Europe qui cultive tant la mémoire historique. Eh bien, la mémoire historique de ce qui s'est passé dans la Méditerranée, dans l'espace méditerranéen, pour suivre les parcours et les devenirs de la ligne monothéiste de la pensée et des cultures, et de la ligne grecque de la pensée et de la culture, car ce sont ces deux grandes lignes qui ont été constamment sollicitées parce qu'elles apportaient une vision de l'homme différente. La vision philosophique de l'homme et la vision qui va devenir théologique de l'homme, qui va devenir théologique. Parce que la théologie, elle vient après ce que nous appelons les Écritures saintes. Je tiens à faire cette différence, cette différenciation. Les Écritures saintes, ce sont les paroles des prophètes, pieusement recueillies, mémorisées d'abord, pas mises immédiatement par écrit, entendues et mémorisées, et ensuite mises par écrit. Ces étapes-là, parole, mémorisation, transmission de ce qui est mémorisé par la parole et non pas par l'écrit, et ensuite mise par écrit de la parole mémorisée pour avoir ce que nous appelons Bible. Bible, c'est un mot grec qui veut dire le livre. Le Coran, c'est aussi le livre par excellence. Les évangiles, c'est aussi les Écritures saintes qui sont un livre, qui sont devenus un livre que nous tenons dans les mains. Mais ces évangiles ont une histoire comme le Coran a une histoire, comme la Bible a une histoire. Ceci est très important, je n'ai pas le temps de détailler ce moment de l'explication de la genèse historique du conflit que j'essaye de vous présenter entre l'humanisme qui réfère directement à l'homme, qui charge l'homme de toutes les responsabilités, et l'humanisme qui charge aussi l'homme des responsabilités, mais pas en passant par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va définir les responsabilités de l'homme pour l'homme. Ce n'est pas l'homme qui le fait par sa propre initiative et autorité et par la surveillance de la raison par la raison. La raison demande des comptes à la raison. Tandis que dans la ligne théologique, la raison a d'abord des comptes à rendre à la parole de Dieu, à la façon dont elle lit la parole de Dieu et dont elle va faire appliquer la parole de Dieu par les fidèles. C'est pour cela que nous avons deux disciplines, la théologie d'un côté, la philosophie de l'autre. Et je fais un peu des sauts historiques pour renforcer ce que je suis en train de dire. Et je saute vers la loi de 1905, dont nous célébrons en France le centenaire. Séparation de l'Église et de l'État. Séparation juridique, définition juridique de l'espace public et de l'espace privé, et la religion va être mise dans l'espace privé. Toutes ces manifestations extérieures, visibles par le public, vont être soumises au contrôle. Je ne sais pas si vous sentez l'ampleur de la rupture ainsi intervenue dans l'histoire des rapports, non pas directement entre la raison philosophique et la raison théologique, mais c'est plus complexe que ça, je vous l'ai dit, avant d'en arriver à la raison théologique, il faut passer par l'étape historique, pas théologique, de ce que les fidèles juifs, chrétiens, musulmans appellent la parole de Dieu. Il l'appelle comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Etc. Ce n'est pas ce soir que je vais tout vous dire. Mais je voudrais vous rendre sensible à la complexité des problèmes que nous vivons. Ça n'est pas aussi simple que ce que nous présente aujourd'hui, non seulement les médias, bien sûr, qui parlent tout le temps de religion, comme vous le savez, mais qui n'en parlent pas, justement, en tant qu'historien. Ils gomment l'histoire des difficultés. Ils gomment l'histoire des problèmes les plus intéressants pour aboutir, justement, aujourd'hui, à des réponses beaucoup plus satisfaisantes pour l'histoire que nous sommes en train de produire et qui peuvent nous délivrer des conflits que nous sommes en train de vivre, dominés par la violence, qui n'est pas, comme on le laisse croire, uniquement de la violence religieuse. Elle est fondamentalement une violence politique. Alors retenez ce raccourci historique, je suis passé du Moyen-Âge à 1905, nous sommes en France. On ne peut pas parler de la loi de 1905 sans revenir à cette histoire. Pourquoi? Parce que nous avons des millions de citoyens dans le monde qui continuent de référer à cette période lointaine des prophètes de la Bible, cette période lointaine de Jésus de Nazareth devenu Jésus-Christ. Vous voyez ici, je fais beaucoup de raccourcis. Quand je dis Jésus de Nazareth, je suis historien, parce qu'il s'agit d'un juif, grandi dans la synagogue, né dans la synagogue, et il est né à Nazareth. C'est le Nazaréen. C'est l'histoire. Je ne préjuge pas encore de ce que les siècles à venir vont faire de cette personne qui va devenir une grande figure de l'histoire. Je le mets dans son lieu. De même qu'avec mes étudiants, ou quand je parle ici, par exemple, devant vous, si j'avais à parler de ce qui s'est passé à La Mecque et à Médine entre 610 et 632, je ne dirais pas le prophète Mohammed. Non, 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 non. Il ne l'est pas encore. Historiquement, il s'appelle Mohammed ibn Abdallah. Mohammed, le fils de Abdallah, car dans la nomination dans les sociétés tribales, on se nomme par sa généalogie, pour vous localiser dans une famille et une suite généalogique. Et ses contemporains le percevaient ainsi. Ils le remettaient dans sa tribu, donc dans ses appartenances sociales et politiques, pas seulement religieuses. Et il va, lui aussi, prononcer un certain nombre de paroles, comme Jésus de Nazareth, qui vont être écoutées, mémorisées, transmises oralement pendant un certain temps, puis mises par écrit pour constituer ce livre que nous appelons le Coran. J'espère que je ne vous entraîne pas dans des complications et que ce que je vous dis est clair, parce que c'est très important de suivre le cheminement du destin historique, de ce que l'homme fait de l'homme. L'humanisme, c'est cela. Humanisme, c'est l'homme, homo, et les connaissances que l'homme a de l'homme, produit sur l'homme, pour l'homme, et ces itinéraires-là sont des itinéraires, je le répète, nombreux, compliqués, et il faut revenir à cette complication. Pour ne pas simplifier les choses et parler comme nous le faisons aujourd'hui, que les religions sont responsables des guerres de religion, que les religions sont responsables du fanatisme, que les religions sont responsables de toutes les violences et les dogmatismes. Ça, c'est un discours trop court. Parce que quand nous disons les religions sont responsables de violences, de dogmatismes, de fanatisme, dans l'arrière-plan de notre pensée et de ce jugement, il y a la référence à la modernité. Nous voulons dire par là que la modernité, elle, nous a sortis des guerres de religion, nous a libérés du fanatisme religieux. C'est ça que nous disons dans l'arrière-plan de ces propositions que nous écrivons chaque jour aujourd'hui, surtout depuis le 11 septembre. Il s'en est dit des choses et il s'en dit encore. En réalité, nous devons revenir aux enjeux de la tension durant tout le Moyen-Âge. Et quand je dis le Moyen-Âge, historiquement, il y a ce qu'on appelle l'Antiquité tardive, c'est-à-dire du 1er siècle de l'ère chrétienne jusqu'au 6e, 7e siècle. Ça, c'est la période de l'Antiquité tardive. L'islam n'est pas encore là. L'islam ne vient que après 632, début du 7e siècle. Pour l'instant, il y a le judaïsme et il y a le christianisme. Il y a les pères de l'Église, comme je vous l'ai dit, Saint Augustin, par exemple, en Algérie, l'Algérie actuelle, ou les pères de l'Église en Orient, comme je vous l'ai dit, grecs, syriaques, etc. Pas d'islam. L'islam émerge dans cette région du monde, le Proche-Orient, entre 610 et 632. C'est un nouvel événement. Et il trouve en face de lui la chrétienté déjà établie, le judaïsme déjà établi, la culture grecque, la pensée grecque circulant dans l'espace méditerranéen qui, au temps des Grecs et des Romains, je vous le rappelle, ça s'étendait de l'Iran actuel, jusqu'au Maroc. Et du sud de l'Europe jusque à la frontière saharienne au Maghreb et en Égypte. C'est ça l'espace historique méditerranéen. Cet espace historique est plus large que l'espace géographique stricto sensu. Ça aussi, c'est une présentation à laquelle on n'est pas habitué, parce qu'aujourd'hui, on dit l'Iran, l'Irak, la Syrie, tout ça, c'est l'Orient. Et l'Orient, ça n'est pas l'Occident. Mais historiquement, on ne peut pas dire ça. C'est faux. C'est une image. Et cette image alimente notre discours idéologique sur une partie de la Méditerranée. Parce que ce qui s'est passé de 632 à 1492, vous voyez la longue période de l'histoire, du 7e siècle jusqu'à la fin du 15e siècle, 632, mort de Muhammad ibn Abdullah, qui va devenir progressivement le prophète Muhammad, comme Jésus de Nazareth va devenir Jésus-Christ, que construisent les théologiens. Que trouve cette nouvelle religion devant elle lorsque elle émerge au début du 7e siècle? Elle trouve l'Empire byzantin à Constantinople. Elle trouve encore l'Antiquité tardive qui est partout. Allez en Algérie, en Tunisie, en Libye, vous trouverez des ruines romaines, des églises chrétiennes. Vous allez en Turquie, la même chose. C'est bien donc un espace méditerranéen historique où circulent librement les références à ces différentes cultures, à ces différentes langues, et où le destin de la culture sémitique fondée sur les langues sémitiques et des langues gréco-latines, le destin de ces langues et de ces cultures va se jouer justement dans ce grand espace méditerranéen. En bref, il faut retenir ceci pour comprendre pourquoi, dans la période classique de la pensée islamique, la période classique de la pensée islamique, c'est-à-dire de 661, fondation de la première dynastie à Damas, en Syrie, jusqu'en 1258, fin de la deuxième grande dynastie abbasside à Bagdad, pendant ces 7 siècles-là, c'est la langue arabe qui est la langue officielle de tout cet ensemble méditerranéen. Tous les savants vont s'exprimer en langue arabe pour accéder à la culture du moment, à la connaissance scientifique du moment. C'est-à-dire que le syriaque va être marginalisé. Le grec continue de vivre dans certains couvents, mais l'arabe, progressivement, a pris le dessus et est devenu ce qu'on appelle la langue de culture et de civilisation. Et c'est une longue page d'histoire où la philosophie grecque joue un rôle tout à fait majeur dans la construction de la pensée islamique, de la théologie islamique. Et c'est au 9e et 10e siècle, bien avant par conséquent, qu'on parle d'humanisme en Europe, à partir du 14e, 15e, 16e siècle, il va y avoir à Bagdad, au Caire, à Kérouan, à Cordoue, vous voyez la Méditerranée, de Bagdad à Cordoue, de Bagdad à Fès, au Maroc. Et il faut aller jusqu'à en Iran, l'actuel Téhéran, Ispahan, Shiraz, les grandes villes actuelles de l'Iran, qui étaient de grandes capitales, participer à ce grand mouvement de la connaissance. Et d'une connaissance qui, progressivement, s'est imposée comme une connaissance humaniste. C'est-à-dire que l'homme a conquis une certaine distance, une certaine liberté vis-à-vis de la suprématie du dogme religieux. C'est ça la référence historique importante. Les philosophes imposent leur présence dans le débat scientifique, imposent leur présence dans le débat théologique, imposent leur présence dans le débat sur le droit. Droit religieux, droit canon, chez les chrétiens, droit que nous appelons charia, vous connaissez le mot maintenant, puisqu'il fait beaucoup de bruit, mais c'est un tout autre bruit aujourd'hui. En ce temps-là, les philosophes s'emparaient de ces questions-là. Ils avaient leur mot à dire. Ce n'étaient pas les théologiens qui détenaient le magistère doctrinal absolu. Et d'ailleurs, en islam, et ça c'est une différence entre l'islam et le christianisme, la théologie musulmane ne connaît pas de magistère doctrinal vertical, vertical, oui, c'est-à-dire le pape au sommet qui dicte la foi et la foi vraie pour les fidèles. La théologie musulmane est protestante dès le départ. L'islam est théologiquement protestant. C'est-à-dire que tout musulman jouit du libre examen des Écritures. Libre examen. Aucun musulman ne peut imposer à un autre musulman son interprétation si elle ne passe pas par le débat. Et le débat, nous rejoignons la philosophie. Nous rejoignons Athènes. Nous rejoignons le forum. Et le débat a pris une place tellement importante dans l'exercice de la pensée islamique que c'est devenu un genre littéraire. Donc voilà un moment d'histoire. J'ai consacré à ce moment d'histoire ma thèse de doctorat qui s'appelle « L'humanisme arabe au Xe siècle ». Alors, vous voyez, j'ai dit l'humanisme arabe, je n'ai pas dit l'humanisme islamique. J'ai fait allusion au début à la dispute sur humanisme chrétien, humanisme laïque, philosophique, etc. Eh bien, nous y voici. En effet, il faut bien distinguer ce qui s'exprime dans une langue arabe devenue une langue de culture et de civilisation pour les juifs, pour les zoroastriens, pour les manichéens, pour toutes les populations du Proche-Orient jusqu'au Maghreb et jusqu'à l'Espagne musulmane, jusqu'à la Sicile, jusqu'au sud de l'Italie, jusqu'au sud de la France. C'est l'arabe qui est le véhicule de ce mouvement humaniste. Et ce mouvement humaniste produit des tensions à l'intérieur de la théologie. De même que le mouvement humaniste en Europe va produire la même tension à l'intérieur de l'Église. Parce qu'il ne faut pas que l'homme s'éloigne de la parole de Dieu, se libère de la parole de Dieu au point qu'il devient autonome dans l'exercice de sa raison. Ça, non. Ni l'islam, ni le judaïsme, ni le christianisme ne l'ont accepté. Pour le judaïsme, qui a suivi tout cela et qui s'exprimait en arabe, Maïmonide, le grand penseur juif médiéval à Cordoue, Maïmonide, qui jusqu'à maintenant est respecté par les juifs comme une grande autorité, a écrit ses livres et a pensé, réfléchi en arabe. Les théologiens chrétiens, il y en avait, ils s'exprimaient en arabe. Ils écrivaient leurs livres en arabe. Il s'agit donc bien de l'humanisme arabe, pour inclure aussi bien les juifs, les chrétiens, tout le monde. Ça, c'est un autre aspect de l'humanisme. L'humanisme ne trace pas de frontières. entre les productions culturelles, scientifiques, institutionnelles des hommes. Ne trace pas de frontières. Ça vient de l'homme, ça va à l'homme. Et il appartient à l'homme d'en débattre, d'en décider. C'est ça l'attitude humaniste. Bien, je peux vous en parler encore longtemps, mais ce n'est pas possible, bien entendu. Il faut que je passe maintenant à l'époque contemporaine, parce que notre titre, vous l'avez entendu, c'est « Humanisme et Islam en contexte islamique classique », je viens d'en parler, du 7e siècle. On peut aller, je vous ai dit, jusqu'en 1492. Qu'est-ce que c'est 1492 ? C'est une date deux fois importante. Mais nous avons retenu surtout la découverte du continent américain par Christophe Colomb. Et nous l'avons célébré en 1998, le cinquième centenaire. Mais on n'a pas commémoré, pas célébré, un autre événement concomitant d'une grande importance historique pour le devenir de l'espace méditerranéen, qui est cet espace où circulaient librement les cultures au temps de la Pax Romana. La Pax Romana, c'est du latin, c'est-à-dire la paix romaine. C'est Rome qui faisait régner une sécurité dans la navigation, dans la Méditerranée, la Pax Romana. Et c'est Rome qui apportait ses institutions, ses routes, son droit dans tous ces pays-là. En 1492, les Juifs et les musulmans ont été expulsés d'Espagne. Ou bien ils devaient se convertir au christianisme, au catholicisme, c'était l'inquisition chrétienne de ce temps-là, ou bien ils devaient partir ailleurs. Alors, beaucoup de Juifs sont allés en Turquie. Et c'est Süleyman le Magnifique qui les a accueillis en Turquie. C'est un aspect important de la façon dont l'islam regardait en ce temps-là ce qu'on appelle les religions du livre, c'est-à-dire le christianisme et le judaïsme. Et les musulmans, évidemment, également expulsés, et la plupart sont allés au Maghreb, en Égypte, ils se sont dispersés. C'est la fin brutale d'une page de culture et d'humanisme, d'un certain humanisme, à la mesure de la pensée médiévale, bien sûr, pendant le Moyen-Âge chrétien, en Espagne. Et la science, ce qu'on appelle la science arabe, la pensée d'expression arabe, en ce temps-là, non seulement était plus évoluée que ce qui se passait en Europe, mais a exercé sur l'Europe, jusqu'à notre Sorbonne et jusqu'à Oxford, jusqu'à Bologne en Italie, jusqu'en Allemagne, etc., a exercé une influence intellectuelle et scientifique sur le développement de la pensée européenne. Voilà pourquoi cette rupture dans l'espace méditerranéen va avoir des conséquences considérables dont nous vivons encore jusqu'à nos jours les conséquences. Parce qu'il va y avoir un sud de la Méditerranée et un nord de la Méditerranée. Et regardez la frontière aujourd'hui, comme elle est devenue rigide et comme on expulse, etc., le problème des immigrés, des gens qui viennent du sud vers le nord, etc., etc. Alors, cette page que je viens de décrire et qui, comme vous le voyez, est très positive sur le plan de l'humanisme, c'est-à-dire de la prise en charge, je le répète, de l'homme par l'homme. Eh bien, à partir du XIIIe, XIVe siècle, la philosophie va disparaître du champ intellectuel de la pensée arabe. Ça, c'est un grand événement. C'est un immense événement. Comment cette philosophie, accueillant à toutes les cultures du Proche-Orient et même de l'Extrême-Orient, pendant plusieurs siècles, va se priver, à partir du XIIIe, XIVe siècle, va se priver de cette richesse. Et la philosophie disparaissant, la pensée théologique elle-même va s'affaiblir jusqu'à disparaître elle-même pour la pensée islamique. Je n'ai pas le temps, bien sûr, ça c'est une grande page d'histoire, puisque ça va, disons, de, je vous ai dit une autre date, 1258, 13e siècle. Les Mongols venus de l'Extrême-Orient asiatique prennent possession de Bagdad et mettent fin au régime du califat. C'est un grand événement historique. Je ne peux pas vous expliquer la genèse, les conséquences, etc. Et de l'autre côté, il y a l'Europe qui commence à émerger dans la Méditerranée. La puissance européenne commence à émerger. Et les routes du commerce, longtemps dominées et contrôlées par le califat musulman, vont être progressivement disputées, puis enlevées aux musulmans, du XIIIe jusqu'au XIVe siècle. Mais il va y avoir politiquement un retour de bâton, puisque les Turcs ottomans, la Turquie dont on parle beaucoup maintenant, les Turcs ottomans prennent possession de Constantinople en 1453, mettent fin à l'Empire byzantin et vont étendre leur puissance politique sur l'ensemble de la Méditerranée du Sud, depuis l'Irak jusqu'à l'Algérie, et ils vont pousser des pointes dans les Balkans, la Hongrie, la Roumanie, la Serbie, qui nous a légué les guerres que nous connaissons, c'est l'Empire ottoman. Bon, politiquement, vous voyez que l'islam est très présent dans cette Méditerranée et qu'il y a une lutte continuelle dans cette Méditerranée parce que les enjeux économiques, les enjeux commerciaux pour contrôler le commerce dans la Méditerranée sont extrêmement importants. C'est un lieu stratégique. Donc là, c'est une histoire compliquée. Je ne vais pas, et je n'ai pas le temps d'insister, je vous livre le fait brut qu'il faut retenir. La sortie de la philosophie du champ intellectuel de la pensée islamique continue de porter des conséquences négatives sur l'exercice de la pensée en islam aujourd'hui encore. Mais là aussi je fais un raccourci historique très rapide parce que il faut introduire à partir de 1800, et même avant pour l'Angleterre, qui prend possession de l'Inde dès le XVIIIe siècle, mais les empires coloniaux français et britanniques et hollandais vont s'étendre sur la totalité du monde musulman à partir du XIXe siècle, de l'Indonésie jusqu'au Maroc et du Caucase jusqu'à l'Afrique du Sud. C'est une autre page d'histoire qui n'est pas écrite correctement. Parce que quand on nous parle de l'histoire des Ottomans dans nos leçons d'histoire au lycée, on mentionne en passant les Turcs ottomans sans expliquer véritablement ce qui s'est passé pendant 4 siècles dans cet espace méditerranéen et le devenir des populations du Sud et des populations du Nord et la montée de l'hégémonie européenne et la descente progressive des sociétés du Sud, qui sont toutes des sociétés musulmanes. Donc, page coloniale qui ne prendra fin, en France, nous le savons tous, 1962, fin de la guerre d'Algérie, après 7 ans de guerre, une guerre qui est un trou de mémoire considérable, aussi bien chez les Algériens que chez les Français. Trou de mémoire complet. Pas d'histoire. Il ne s'est rien passé. Et les trous de mémoire empêchent la raison de fonctionner. Il n'est pas possible de produire une culture humaniste quand on a d'immenses trous de mémoire historique. Impossible. En revanche, on peut produire beaucoup de conflits, beaucoup d'idéologies, beaucoup d'exclusions réciproques. D'exclusions réciproques. Au nom du bon droit de chacun. Alors, la période contemporaine est un moment très, très difficile pour l'exercice de la pensée d'expression arabe, donc pour tout le monde arabe, mais aussi la pensée d'expression turque, d'expression persane, d'expression ourdou pour les Pakistanais, d'expression dans les diverses langues de l'Indonésie, de la Malaisie, bref, de cet immense monde actuel, et surtout le monde de l'Afrique, qui connaît des tragédies continuelles depuis pratiquement les soi-disant indépendances des années 60. Et tout cela n'est absolument pas propice, encore une fois, à produire une culture et surtout à prendre part au grand débat de la modernité d'abord, et maintenant les débats sur la mondialisation. Laissez-moi vous dire un mot sur les débats au sujet de la modernité. Parce que la modernité joue un rôle dans le devenir de la question humaniste en Europe. Parce que c'est en Europe principalement que les enjeux au sujet de l'humanisme se passent depuis le XVIe siècle. On confond très couramment, même dans les pays européens, modernité et modernisation. La modernisation, c'est ce que nous vivons tous. Tous les conforts que nous procure la technologie moderne. Ce sont toutes sortes de machines, toutes sortes de choses que nous nous achetons si nous avons de l'argent, que nous utilisons et quand elles se cassent, on les jette et on en achète d'autres. Pas d'effort à faire, aucun, sauf pour les inventeurs, sauf pour les chercheurs. Mais ces chercheurs eux-mêmes, qui consacrent toute leur énergie au renouvellement des objets de consommation, sans lesquels, s'il n'y a pas de renouvellement, le marché se tarit, la crise, les chômages, etc. Quel temps reste-t-il pour l'enseignement de l'histoire des cultures et pour l'enseignement de la philosophie? Je parle de l'Europe. Voyez l'évolution des programmes, l'évolution des options au lycée, l'évolution des options au niveau des universités. Voyez le développement des sciences technologiques, des sciences physiques, biologiques, etc., ce qui est excellent, on en a besoin, bien sûr. Mais voyez parallèlement l'appauvrissement de l'enseignement de l'histoire et les reculs successifs de l'enseignement de la philosophie. Et quand je dis l'enseignement de la philosophie, ça n'est pas l'enseignement de la philosophie tel que nous le pratiquons encore aujourd'hui, en faisant l'impasse sur la manière de penser des Chinois, la manière de penser des Hindous, la manière de penser des Japonais, et bien sûr la manière de penser dans l'islam qui occupe quand même une grande partie de la planète et qui sont parmi nous en Europe. Nous continuons à vivre sur un enseignement de l'histoire eurocentré. Et quand je dis eurocentré, je suis optimiste. Je vous rappelle qu'en 1991-92, l'Allemagne et la France ont pris une décision magnifique. Ils ont rassemblé leurs meilleurs historiens, français et allemands. Et on leur a donné le temps et les ressources nécessaires pour écrire un manuel d'histoire qui serait utilisé en France et en Allemagne sans qu'il y ait de disparité, de rejet de la part de l'un ou de l'autre. C'est-à-dire essayer de réécrire l'histoire, surtout entre la France et l'Allemagne, avec leurs trois guerres successives. Les historiens se sont mis au travail, ils ont fait leur travail, ils ont produit un manuel inutilisable. Inutilisable encore. Pourquoi ? Parce que l'histoire est conditionnée par l'historiographie nationale. La construction de la conscience nationale, la nation. Et là, je vous conseille de lire, pour ceux qui ne le connaissent pas, un beau livre dirigé par l'historien Pierre Nora et qui s'appelle « Les lieux de mémoire ». Il vous montre comment la Troisième République française a sélectionné un certain nombre de figures de l'histoire, de moments de l'histoire de France, pour les enseigner au lycée. J'ai dit « sélectionner ». Pour constituer des lieux de mémoire nationale. Abstraction faite des relations de cette mémoire nationale avec l'Algérie, par exemple, avec le Maroc, avec la Tunisie, avec l'Égypte. Et il y a eu des moments d'histoire où la France et ces pays-là étaient comme ça. Alors vous voyez ici, j'essaie de vous faire sentir combien ce que nous appelons la modernité reste encore bien en deçà de ce qu'exige le travail humaniste de la pensée pour donner à l'histoire de toutes les sociétés, surtout les sociétés qui ont eu depuis des siècles des contacts soit guerriers, soit intellectuels, culturels, religieux, comme nous l'avons dit pour le Moyen-Âge. On a vécu une histoire commune. On s'est influencé les uns les autres. On a donné les uns aux autres. Non, on reste cloisonné. Et ceci, nous l'avons dit tout à l'heure à table avec nos amis qui nous accueillent dans cette église, ceci se passe même pour la théologie. On étudie la théologie catholique, la théologie luthérienne, la théologie calviniste. Quant à la théologie musulmane, la théologie juive, c'est leur affaire à eux, ça ne me concerne pas. C'est épouvantable, ça. Début du XXIe siècle. Au Moyen-Âge, on avait plus de contacts entre les théologiens juifs, chrétiens et musulmans. Je vous ai cité Maïmonide. Maïmonide et Averroès, ils vivaient ensemble, ils étaient contemporains. Ils faisaient le même travail. Et vient saint Thomas d'Aquin, qui est plus jeune, il a été obligé de lire Averroès, parce qu'Averroès a laissé un commentaire du corpus aristotélicien qu'un théologien qui se respecte ne pouvait pas ignorer. Aujourd'hui, vous voyez, il y a un recul, malgré les moyens considérables, les ressources matérielles et humaines considérables dont nous disposons tous pour faire un travail dans la direction humaniste de la connaissance. La direction humaniste de la connaissance. Je vous ai dit que j'ai consacré mon livre de thèse, c'est-à-dire travail scientifique dirigé essentiellement pour prendre place dans le débat scientifique à l'humanisme arabe au Xe siècle. Ce livre a été publié en 1970 à la librairie Vrin, qui republie ce livre aujourd'hui, ce qui veut dire que je suis revenu à la question humaniste 35 ans après. Pour essayer de réintroduire, comme je le fais devant vous, l'urgence, pour nous tous, sans exception, l'urgence